Suivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour à tous ou rebonjour à tous, bienvenue sur Radio Territoria en direct du 84e congrès HLM à Montpellier depuis le stand du gouvernement avec une émission consacrée à la qualité du logement de demain chez les bailleurs sociaux, qualité d'usage, évolution des modes de vie, transition écologique, abordabilité. Le logement est évidemment au cœur de tous les enjeux sociétaux. Le programme engagé pour la qualité du logement de demain avec l'ensemble des acteurs du secteur tente d'apporter des réponses à ces enjeux et invente évidemment l'habitat du futur. Pour nous en parler sur ce thème, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Lola Davidson. Bonjour.
Bonjour.
Directrice du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Luca De Franceschi, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'architecture et du développement durable d'Immobilière 3F et Maxime Bitter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'île Métropole Habitat. Encore une fois, merci à tous les trois d'être présents sur ce plateau. Et puis je vous rappelle également, pour l'ensemble de ces émissions, que vous avez la possibilité de réagir, de poser vos questions. Alors surtout, ne vous en privez pas. Vos questions, on les prendra. Nos invités y répondront en seconde partie d'émission avec Hélène Parmentier. Bonjour Hélène.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Chargé de mission à la sous-direction territoire et usagers au sein du ministère chargé du logement. Cette première question, elle s'adresse à Lola Davidson. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en tout cas à nos auditeurs, l'ambition derrière le programme engagé pour la qualité du logement de demain ?
Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, peut-être un petit rappel sur,
vous approchez bien du micro,
sur
là,
ce qu'est ce programme qui a été lancé par deux ministères conjointement, le ministère de la Culture et le ministère chargé du logement, fin 2021, pour pouvoir travailler sur la qualité d'usage et la qualité architecturale au travers d'un appel à manifestation d'intérêt. Et donc nous avons eu des candidatures de la part de groupements qui regroupaient des collectivités locales, des maîtrises d'ouvrage et une grande partie de bailleurs sociaux, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et des maîtres d'œuvre engagés dans une réflexion et dans une volonté de mettre la qualité architecturale et la qualité d'usage au centre de leur réflexion et de la production du logement, aussi bien en réhabilitation qu'en construction neuve. Et donc les trois grands axes de travail de ce programme sont, comme je le disais, la qualité architecturale en termes de conception et basée sur les usages des habitants, mais aussi évidemment une production décarbonée, donc pour travailler sur des nouveaux processus constructifs, et enfin, bien entendu, la maîtrise des coûts pour proposer du logement abordable.
Combien de projets lauréats ?
97 projets ont été sélectionnés par un jury national en mars 2022 sur toute la France hexagonale et ultramarine, et avec une grosse moitié en zone métropolitaine et une grosse moitié également portée par des bailleurs sociaux.
C'est sous tutelle de plusieurs ministères, c'est ça ?
Ministère de la Culture, tout ouais. À fait, parce qu'il y a vraiment un rôle très important de l'architecture et de l'architecte, et évidemment le ministère chargé du logement.
Et il est opéré par le JPEPO.
Le JPEPO, donc attention, c'est long, Groupement d'intérêt public, l'Europe des projets architecturaux et urbains, qui est effectivement un opérateur interministériel qui porte ce type de programme d'expérimentation.
Alors Maxime Bitter et Luca De Franceschi, tous les deux plusieurs fois lauréats du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Ça veut dire que vos projets ont été sélectionnés, un, pour leur caractère expérimental ou innovant, et participent à une production renouvelée de logements dont la qualité d'usage et architecturale est évidemment centrale. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos différentes structures ? Alors, je ne sais pas qui commence, allez-y Maxime.
Bonjour, alors je suis le directeur général de l'île Métropole Habitat, oui. Qui est une structure office public de l'habitat à Lille, dans le Nord. Donc, nous avons 35 000 logements en gestion sur le territoire de la métropole européenne de Lille. On ne sort pas aujourd'hui de ce territoire-là. Et nous avons un profil de bailleurs très caractéristique des quartiers prioritaires de la ville. Donc on a 70% de notre parc en QPV, essentiellement des gros immeubles collectifs à gérer.
Ok. Luca De Franceschi, on peut présenter votre structure ?
Oui, certainement. Je suis à la maîtrise d'ouvrage. Je représente l'architecture et le développement durable au sein de 3F. 3F, c'est un groupe qui est positionné dans toute la France avec 12 filiales. C'est un groupe dans le groupe parce qu'on dépend en fait de notre actionnaire Action Logement, donc les 1% patronal. Et représentant en fait de la maîtrise d'ouvrage, aujourd'hui, en fait, je suis ravi en fait, justement, de partager en fait, ces expériences et notre démarche d'innovation.
Et vous êtes le bienvenu, évidemment. Maxime Bitter, à Lille, vous travaillez sur la transformation d'usage avec un immeuble de bureau que vous transformez en 21 logements. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différents axes d'expérimentation ou d'innovation qui sont portés à travers ce projet-là ?
Oui, c'était très nouveau à Lille d'aller sur ce champ de transformation d'usage de bureau en logement. Ce sont des expériences qu'on connaissait en France, mais essentiellement sur les territoires très tendus, notamment en Île-de-France, évidemment, où il y a eu pas mal d'expérimentations de ce type. Mais dans le Nord, c'était assez rare, et on a voulu se lancer, alors sur impulsion publique, un bâtiment de bureau, voilà, du centre de Lille, rue Nationale, un petit bâtiment qui fait 1 500 m², qui a été vendu par un groupe tertiaire d'assurance et qui a été racheté par Lille Métropole Habitat dans le cadre d'une préemption. Et tout de suite, on s'est dit qu'il y avait déjà l'innovation en soi, c'était d'aller chercher un cadre bâti pour produire du logement social, un cadre de bâti tertiaire. Et ça, c'était innovant en soi à Lille, parce qu'on est dans un territoire qui vivait de plein fouet un retournement de ses documents de planification urbaine, notamment une logique de préservation d'extension urbaine, préservation de la ressource en eau, qui nous a imposé un changement de paradigme. Et on ne pouvait plus s'étendre sur les champs de patates autour de la métropole de Lille. Il fallait réinvestir les cœurs urbains. Les cœurs urbains à Lille, bah, c'était des friches industrielles. On ne regardait pas les friches tertiaires. Et il fallait attirer l'attention publique dessus. Et c'est arrivé à ce moment-là. Et Lille Métropole Habitat a été engagée dans ce programme. Donc déjà, un axe d'innovation foncière. Un second axe, on s'est dit, quitte à y aller, bon, on va y aller au bout. On va expérimenter massivement sur ce projet. Et on va tenter une expérimentation, d'une réhabilitation passive sur un bâtiment tertiaire de cœur urbain dans lequel on ne peut pas choisir l'implantation, la bioclimatique, et on est très très, très contraint. Viser le passif était une, disons quelque chose d'assez ambitieux dans lequel on s'est lancé. C'est 4 fois moins consommateur qu'une réhabilitation traditionnelle dans laquelle on est engagé habituellement. Puis on s'est dit, on va remettre une couche. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser des matériaux biosourcés. Donc on y va. Et puis on va essayer de déroger au plus en essayant de faire une surélévation sur le bâtiment. On va essayer de récupérer les eaux pluviales. Bref, on a essayé de d'étendre notre champ d'expérimentation sur ce produit-là afin de faire progresser à la fois les documents, tout l'écosystème public et privé qu'il y a sur le territoire, et dans le cadre d'un programme qui était très largement facilitateur.
Alors, Luca De Franceschi, en Ile-de-France cette fois, les projets lauréats portés par 3F sont des projets de construction neuve. Est-ce que les différents axes d'expérimentation, d'innovation portés dans ces projets sont plus orientés vers les matériaux et la structuration des filières, 3F étant, on le rappelle, très impliqué dans le développement du hors-site aussi?
Certes, le hors-site, c'est un axe très important de développement de notre démarche d'innovation. Bien évidemment, en fait, on a pas mal communiqué là-dessus. On a structuré avec le partenariat avec GPA et la Société du Grand Paris, en fait, une association permettant justement de faire rayonner en fait, ce sujet. On a bâti justement en fait, un cadre spécifique pour, disons, en fait, trouver un langage commun, donc un lexique, et puis en fait, une charte d'engagement pouvant faire en sorte de faire fédérer en fait tout un ensemble d'acteurs et donner de la visibilité à la filière de l'industrialisation et la réindustrialisation en fait via la construction hors site. Pour autant, pour nous en fait l'enjeu en fait de l'innovation ne porte pas que sur le volet technique. Au contraire, en fait, on a essayé de bâtir une démarche que nous appelons en interne 3F Climat, qui essaye de dire certes la décarbonation est importante, mais pour autant en fait il est encore plus important d'avoir un regard en fait, vis-à-vis en fait, des habitants et des territoires dans lesquels en fait, nous construisons. Donc il s'agit en fait, d'innovation en fait, qu'on essaie de développer d'une façon en fait, partagée avec les collectivités. et qui essaye également en fait, de mettre en avant en fait, des solutions qui favorisent la qualité spatiale en fait, des logements, des parties communes, des espaces verts et ainsi de suite. Donc c'est une démarche globale. Essayons en fait, justement de drainer en fait, la qualité, pas que par le biais en fait, de la réglementation qui aujourd'hui nous pousse à décarboner en fait, la molécule en fait, quelque part CO2, mais également en fait, la spatialité et tous les autres enjeux justement, qui relèvent en fait, du bien vivre nos résidences.
Vous avez une démarche de structuration qui est très R&D.
Tout à fait. On a en fait une démarche R&D d'amélioration continue qui se pose sur un socle de fondamentaux en fait, qui sont intégrés dans nos bases de prescription, bien évidemment, et qui sont alimentés en fait, année en fait, par l'expérimentation que nous menons en fait, au sein d'un périmètre disons, en fait, restreint d'opération. On le fait avec nos chefs de projet, on le fait avec les architectes, les industriels, on le fait avec les constructeurs. C'est quelque part, on essaie de faire bouger l'écosystème en fait, de la construction, permettant justement de fédérer en fait, des envies vis-à-vis en fait, justement de l'innovation. Alors, à titre d'exemple, oui. Il y a 4 ans, en fait, la façade d'ossature bois était plutôt en fait, une innovation. Aujourd'hui, en fait, 40% des opérations en fait, que nous menons en fait, sont des opérations qui intègrent déjà de la FOB. Donc, ce n'est plus une innovation en tant que telle. Donc, c'est du cahier des charges courant, en fait. Voilà. Juste pour donner un exemple.
Un exemple qui est très parlant. Gardez la parole et puis je poserai la même question tout à l'heure à Maxime Bitter. Mmh. Quel frein, vous, concrètement, vous observez aujourd'hui dans la mise en œuvre opérationnelle des projets que vous menez ?
Alors, il y a un frein très contextuel lié, disons, à la crise que nous vivons, qui est systémique et à la fois génère en fait, des coûts de travaux qui sont très élevés. En fait. Donc, effectivement, un des premiers freins qu'aujourd'hui en fait, on constate, c'est vraiment en fait, la problématique des coûts de travaux qui sont explosés d'une façon, en fait, disons, totalement en fait, incontrôlée. Il y a aussi en fait, la frilosité des filières, des constructeurs aussi, en fait, qui ont du mal en fait, à se lancer. Et puis il y a aussi en fait justement la cet écosystème du logement social dans lequel il faut aller vite construire parce qu'il y a besoin de construire effectivement, dans lequel on a des objectifs qui sont très élevés, donc pour nos opérationnels c'est pas toujours évident de se stopper un instant pour porter l'innovation, parce que l'innovation demande du temps, il faut se poser et donc il faut justement en fait donner le temps autant pour que ça puisse mûrir progressivement.
Et aboutir. Maxime, même question. Quel frein, de votre côté, vous observez pour la mise en œuvre opérationnelle de vos projets ?
Alors, les freins, vous avez un peu de temps, j'espère, parce que ça ne manque pas. Je vais essayer de résumer. On a d'abord des freins économiques sur une opération de tertiaire à transformer en bureau. Un bâtiment de bureau, c'est plein d'avantages au début. C'est un bâtiment qui est déjà là, donc je n'ai pas de sujet d'acceptabilité des riverains. C'est un bâtiment qui a déjà ses stationnements, c'est un bâtiment qui est desservi, en général il y a des transports en commun autour, donc on part avec beaucoup d'invariants positifs. Bon, mais ça génère de la valeur. Hein. Donc il coûte plus cher qu'un champ de patates dans le périurbain lillois. C'est le premier sujet qui est pour nous un peu compliqué, c'est d'abord juste le coût d'acquisition. Et puis la concurrence pour un bailleur social comme LMH dans ce contexte-là, ce n'est pas les autres bailleurs sociaux, c'est le marché du tertiaire lui-même, qui avait des taux de rendement avant la crise qui ne permettaient pas d'accéder à l'acquisition de ce genre de bâtiment. Aujourd'hui, c'est autre chose. J'invite tous les bailleurs sociaux à s'intéresser aux tertiaires vides qui peuplent nos cœurs urbains, hein, parce que là, il y a un vrai Eldorado intéressant hein, pour produire du logement social. Bah, c'était quand même, au moment où on l'a acheté, 1 000 euros du mètre carré, la surface de la parcelle. Donc c'était un coût d'acquisition foncière bien au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire sur l'île. Ensuite, il faut pas oublier le coût de la construction dans un milieu très contraint. Une réhabilitation, les bailleurs sociaux ont l'habitude d'en faire tous les jours, mais d'un logement social en logement social. Là, le coût de la transformation d'un bâtiment, un changement d'usage, alors, il y a déjà beaucoup de précautions techniques à prendre au démarrage. Hein. Il faut que la trame s'y prête, il faut que les circulations s'y prêtent. On rentre dans une perspective de seconde vie complète hein, d'un bâtiment qu'on va complètement curer. mais on estime, nous, que c'est plus cher que de produire du neuf, de retourner un bâtiment ancien de bureau en logement locatif social. Un surplus de 300 euros du mètre carré. C'est comme ça qu'on l'a, modélisé. Curage, désamiantage sont des sujets qu'il faut avoir en tête. Alors ça, c'est un premier frein économique. Frein réglementaire également, il ne faut, pas le cacher. Frein réglementaire sur notre innovation, ce n'était pas de la transformation d'usage en soi, c'était plutôt des innovations liées à l'usage de modules de façade en bois préfabriqué, avec l'usage de la paille hachée comme matériau biosourcé qui n'était pas forcément encore reconnu. Il n'y a pas d'avis technique sur ces sujets-là, sur ces matériaux-là. Donc on part dans des logiques d'ATEX, d'expérimentation. Donc après, il y a toute une logique assurantielle à accorder. Et ça peut être un aléa qui, sur des produits très coûteux, est assez délicat à manier pour un bailleur social. Il a plus l'habitude de travailler dans un monde bien, bien plus bordé que cela. Les freins techniques, je vous avais demandé un peu de temps, mais parce que là, il en faut un petit peu sur les freins. Oui. Les freins techniques, quand on construit en neuf, on a un corpus technique très fiable, très stable. On sait ce qu'on construit. Quand on arrive sur un bâtiment déjà bâti, c'est des surprises tous les jours de chantier. Et ça, c'est des choses qui gênent énormément la construction. Nous, on était impossible, par exemple, sur ce bâtiment, de savoir si nous pouvions densifier la parcelle. Nous ne connaissions pas, au moment où nous avons acheté le bâtiment, la capacité du sous-sol à accepter une surélévation ou un bâtiment supplémentaire au fond de la parcelle. Quand on fait les équations économiques au moment d'acheter, et quand on achète dans un cadre de préemption, on a un mois pour se décider, on n'a pas le temps de faire toutes ces études. Donc il y a une prise de risque, il faut y aller, et je trouve que c'est important à avoir à l'idée. Voilà, après il y a d'autres freins, de freins d'acceptabilité, évidemment. Alors, avoir un bâtiment tertiaire, c'est un type de peuplement. Avoir du logement social en cœur urbain, c'est un autre type de peuplement. Ça génère une acceptabilité locale un peu à accompagner. Et puis, on a été très soutenus par les pouvoirs publics. On aurait pu avoir des freins à tous les étages de l'instruction du dossier. Et là, parce qu'on a été repéré par JPEPO, on était lauréat, on a été très accompagnés. Mais en droit commun, ce projet-là, il ne sortait pas. Le PLU n'était pas compatible, on avait des sujets de domaine public, on avait des sujets de financiers. On a été accompagné à toutes les étages. La dernière en date, c'est un accompagnement par le Fonds vert. Mais je tiens à le rappeler, c'est-à-dire qu'on fait un projet très expérimental de cœur urbain avec le soutien de toute la filière et de l'ensemble de la filière administrative également. Sans cela, ce projet, il restait un bâtiment de bureau.
Et est-ce que ces projets, justement, permettent quelque part de faire évoluer vos modes de production, vos process internes? C'est quoi les objectifs de réplicabilité?
Sur la transformation en soi des bâtiments de bureaux en logement, ça devient une politique de développement chez nous, sur la base de cela. On est un bailleur social qui est très territorialisé, c'est la métropole européenne de Lille. Je ne peux pas me développer à Béthune ou à Arras. Je dois rester dans la métropole européenne de Lille. Il y a un plus sur la métropole européenne de Lille qui me dit très justement « Arrêtez de vous répandre sur les terres agraires ». Donc je n'ai pas le choix. Et pour autant, on est sur un territoire très tendu. 80 000 demandes de logement social rien qu'à Lille. Bon, on fait quoi de cette équation? Il faut réinvestir la ville renouvelée. Les terres qui sont libérées, non pas de l'agriculture, non pas de l'espace vert, mais de l'industrie ou du tertiaire. C'est là nos champs d'attaque du développement. Sur l'industrie, honnêtement, la marche à franchir, elle est monstrueuse. C'est des terres très polluées, c'est souvent des terrains très vastes. Là, il faut une couche de maîtrise publique, en général, de ces foncés-là. Sur le tertiaire, c'est formidable. Je vous le dis parce que c'est très, très rapide. On est sur des plus compatibles. On est sur des territoires déjà desservis. Donc c'est pour moi la façon de répondre à une crise actuelle du logement. En 3 ans, on peut avoir un logement livré. Est-ce que vous connaissez ce genre de circonstances ailleurs?
Pas nécessairement.
Non, parce que le bâtiment est déjà là. Le PLU est compatible. Le bâtiment est déjà desservi. Il y a déjà ses stationnements. Il n'y a plus qu'à y aller. À concevoir un projet, à mettre en branle une filière de construction. Ça, si tout le monde est aligné, ça met 3 ans. Mais il y a des freins préalables à lever. Donc c'est un vrai champ de développement qu'on a pris pour l'office. Puis après, il y a d'autres sujets plus techniques, notamment sur le champ d'expérimentation, sur le réemploi. Ça nous fait progresser sur notre façon d'acheter, sur nos marchés publics. Et puis on a pris une grande, grande leçon aussi sur cette opération. C'est la leçon de la programmation. Ce sont des projets qui coûtent plus cher. Donc on ne peut plus raisonner un bâtiment égal X logements locatifs sociaux et d'abord des PLAI parce que c'est ce dont le territoire a besoin. Ça, ce sont des équations économiques aujourd'hui qui ne fonctionnent plus dans des cadres où la dépense est bien supérieure à ce qu'on avait l'habitude de travailler. Donc il faut travailler la programmation. Je préfère mixer la programmation, avoir une culture de la recette sur une opération et ne pas brader la qualité de ce qu'on produit. C'est une clé assez mathématique, assez simple à manier, mais ça veut dire, de la part de notre partenaire public, collectivité, État, une approche de la programmatique un peu innovante. Alors, un peu innovante dans le Nord, c'est par exemple accepter quelques LLI dans un programme, parce que ça rapporte un peu de sous à l'opération, et que ça répond aussi à des enjeux Mais c'est aussi les commerces en rez-de-chaussée, c'est aussi des stationnements à louer, c'est toute une programmation complète qui permet de financer le cœur du réacteur, qui est faire du logement très social en cœur urbain, dans une zone où ce n'aurait pas été possible dans d'autres circonstances.
Lucas Franceschi, une question finalement, est-ce que ces projets ont permis de faire évoluer vos modes de production, vos process internes ?
Absolument. Je voulais juste souscrire à tout ce qui vient d'être dit par Maxime, parce que justement c'est très important ce qu'il vient de souligner par rapport justement à la nécessité de transformer la ville sur la ville. C'est un axe de développement qui est nécessaire de creuser d'une façon collaborative parmi les acteurs publics, parce que justement c'est pas avec le privé qu'on arrivera à transformer ces actifs, parce qu'il nécessite justement un portage qui est beaucoup plus amont et mixte dans la façon dans laquelle on programme justement ces actes et on va la façon de transformer ces immeubles. À titre d'exemple, on est en train de transformer un immeuble à Charenton-le-Pont. À l'intérieur, on a collaboré avec la collectivité pour y intégrer environ 2000 m² d'agence de gestion. Le 3F se déplace et va créer un espace tertiaire. On réalise une centaine de chambres pour un foyer d'accueil. On a une partie qui est en LLS et une autre partie qui est en LLI. Bien évidemment, c'est une nécessité justement cette mixité et qui d'autre que des bailleurs ont la capacité de porter cette complexité justement. Pour revenir à la question relative justement au changement des processus internes, oui, bien évidemment, effectivement, par exemple, dans le cadre de la construction hors site, on met en place des expérimentations d'achat justement innovantes dans lesquelles on achète des prestations de travaux, avant la maîtrise d'œuvre, par exemple. Ou alors, on lance des appels d'offres travaux juste avant le permis d'écosse de construire pour bien caler les enjeux techniques. Et certes, les premières nous ont pris presque le double du temps, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on gagne du temps, au contraire, justement. Donc il y a toute cette dimension qui est très structurante et très importante.
Merci. Je vous rappelle que cette émission, on la veut aussi interactive et que vous pouvez continuer de réagir et envoyer des questions. N'hésitez pas. Dans quelques instants avec Hélène, on y répondra avec les invités. Lola Davidson, quels sont, pour le programme engagé pour la qualité du logement de demain, les éléments qui sont constitutifs de la qualité justement du logement ?
Alors, peut-être juste revenir avant ces éléments constitutifs sur toute l'histoire des freins et de justement à quoi sert ce programme d'expérimentation avec son ambition de réplicabilité. Et c'est justement avec la remontée des freins des différents porteurs de projets lauréats qu'on arrive à bien identifier là où il y a des blocages et des blocages récurrents et sur lesquels toute l'administration des différents ministères et de l'ensemble des partenaires se mobilise pour voir comment faire évoluer pour que demain on puisse être dans une logique de réplicabilité et pas juste dans une expérimentation qui aura expérimenté du coup avec un certain nombre de freins et puis on s'arrêterait là. Donc c'est vraiment, je pense, c'est aussi constitutif du programme que de travailler sur ces freins de manière collective avec l'ensemble des partenaires. Et donc, si on revient sur ce que veut dire qualité et comment nous, on travaille ça avec les porteurs de projets, il y a des réflexions sur l'évolution des types d'habitations au regard des enjeux sociétés qui se font à l'échelle de la cellule logement, donc la réflexion sur le plan, sur l'organisation des espaces, la place de la cuisine dans le foyer, est-ce qu'il faut qu'elle soit systématiquement une cuisine ouverte ou pas, des rangements, des circulations, des possibilités d'évolution, d'évolutivité des logements. Et là, on voit aussi beaucoup de porteurs de projets qui travaillent sur des trames qui permettent d'avoir une seconde vie, voire une troisième vie. Mais aussi des évolutions d'usage juste au gré des heures de la journée ou des activités qu'on peut faire dans le logement. On a évidemment les sujets, on s'appuie beaucoup sur le référentiel Jérôme Étier-Leclerc sur la qualité du logement, avec la question des volumes, de la luminosité et des logements traversants. Mais on travaille, en tout cas le programme ne porte pas que sur la question de la cellule logement, mais aussi c'est le bâtiment avec ses performances environnementales, l'intégration dans son environnement urbain, le lien entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, les espaces extérieurs privatifs, les espaces communs. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur comment aussi on travaille les espaces partagés, y compris dans leur gestion. Et c'est ça qui est intéressant avec le travail avec les bailleurs sociaux, c'est que ça amène des réponses autour des processus de projet. On voyait, ça fait évoluer les processus internes sur la conception du plan, sur les processus techniques. Et puis, c'est aussi sur toute la vie du bâtiment, parce que les bailleurs, ils sont gestionnaires. Et donc, c'est aussi une réflexion qui est dans le temps sur les usages et sur la gestion patrimoniale.
Et justement, sur les bailleurs sociaux, est-ce qu'ils sont particulièrement représentés ?
Évidemment. Non, mais historiquement, les bailleurs sociaux sont quand même porteurs d'innovation, donc c'est pas tellement étonnant, c'est pas une grande surprise qu'ils soient particulièrement représentés dans ce programme. Et donc, ils représentent plus une grosse moitié des porteurs de projets lauréats. Mais en volume de logements, c'est les plus importants parce qu'ils portent aussi des opérations un peu plus grandes. Dans le profil des opérateurs lauréats, il y a la promotion privée, des bailleurs sociaux, mais il y a aussi une myriade de petits opérateurs privés, de SCI, de coopératives habitantes, et puis en ruralité, de collectivités qui portent en maîtrise d'ouvrage direct des projets de logement. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que c'est les bailleurs sociaux qui poussent en volume et aussi dans des logiques de faire évoluer les process et d'être sur un projet qui pousse pour après derrière avoir une programmation qui enchaîne en s'appuyant sur cette expérimentation. C'est ce que disait Maxime à l'instant.
Et si on est focus sur les lauréats, si on parle de leur profil finalement, quels sont-ils ?
C'est le programme engagé pour la qualité du logement demain, c'est une photographie de tout ce qui peut se faire en opération de logement en France. Donc on a tout type de profil en termes de maîtrise d'ouvrage, tout type de territoire. Donc c'est une réponse un peu de normand que je vais vous faire.
Oui, mais très bien.
Qui montre aussi qu'il y a des besoins de logement sur tous les territoires, mais par contre qui sont des besoins adaptés aux marchés locaux de l'habitat, à des formes, des paysages et des milieux, donc avec des opérations qui peuvent être du tout petit collectif comme du très grand collectif quand on est en zone métropolitaine, de l'habitat groupé, de la densification de maisons individuelles en centre-bourg. Enfin, c'est aussi cette finesse-là qui est importante de garder et de regarder. Parce qu'on ne propose pas un logement de qualité partout pareil.
On disait 97 lauréats, hein, c'est ce qu'on disait au début.
Ça représente à peu près 9000 logements sur le territoire.
Ouais, d'accord. Il en est où aujourd'hui le programme ?
Alors, les lauréats ont été sélectionnés début 2022. Ils avancent chacun à leur rythme. Mais aujourd'hui, on a un tiers de projets qui sont en chantier. Un tiers en cours de négociation, marché appel d'offres entreprises ou dépôt de PC. Et un tiers qui sont, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que sur ces 97 projets, il y en a 20 qui sont incubés, dont fait partie par exemple l'opération de la rue nationale à Lille, et qui ont été accompagnés un peu plus grâce au soutien de la Banque des Territoires sur des études complémentaires. Et donc ceux-là, ils prennent un petit peu plus de temps à sortir. Mais donc on a un accompagnement des projets avec des projets qui arrivent en phase chantier et puis une phase aussi de capitalisation. Donc à l'échelle du programme, c'est quel retour d'expérience et quelle tendance on voit éclore grâce à l'observation de ces 97 projets, quelles préconisations on peut faire aussi à partir des solutions et des freins qu'on a pu observer. Et ça, c'est en cours de travail et on présentera tous ces résultats début 2025.
Ça fait partie des objectifs que vous vous êtes fixés ?
Ça fait partie des objectifs qu'on nous a fixés aussi. On a les partenaires et les ministères qui ont lancé ce programme étaient aussi... Il y avait vraiment cette volonté d'expérimenter, mais aussi d'apprendre de cette expérimentation et de voir quels leviers peuvent être actionnés pour pouvoir massifier un petit peu les méthodes et les process de projet qui auront pu être expérimentés dans le cadre de ce programme.
Merci Hélène. Je me tourne à présent vers vous. On poursuit cette émission avec les questions de nos auditeurs, puisqu'ils ont effectivement la possibilité d'en poser. Nous sommes tout oui.
Alors oui, alors première question sur ces projets lauréats. Est-ce que vous appliquez les préconisations du référentiel Jérométhy-Leclerc, c'est-à-dire des surfaces plus grandes, une hauteur sous plafond à 2,70 m, des logements traversants?
Alors, je me lance. Nous avons fait en fait un travail d'analyse en fait du référentiel Jérométhy-Leclerc par rapport en fait aux ambitions que nous portons. Et nous avons fait ressortir c'est ce qui est plus qualitatif par rapport à nos prestations habituelles. Il en relève que nous avons déjà en fait un cahier des charges qui est très ambitieux. On est bailleurs sociaux, en fait, donc du coup on souhaite la qualité. Le logement traversant, en fait, c'est déjà effectivement en fait un élément en fait qui est structurant de notre cahier des charges. La hauteur en fait de 2,70 m, on a du mal à l'intégrer parce qu'elle n'est pas compatible avec les pièces réglementaires en fait des villes. Donc souvent en fait pour pouvoir atteindre en fait tel niveau en fait de constructibilité, on n'y arrive pas. On a fait quelques programmes, par contre, en fait, on en a quelques-uns. Par contre, les transformations du bureau en logement, ils ont presque systématiquement en fait, des surhauteurs en fait, plus importantes que la moyenne, mais parce que justement, c'était fait pour faire du bureau. Et donc, du coup, on a une surqualité grâce justement en fait, à une enveloppe qui est particulière.
Maxime ?
Ah bah, chez nous, on a, au-delà du référentiel qualité du JPPO et du rapport que vous citez, on a un cadre à Lille qui est extrêmement exigeant en soi. On a une commune qui est très investie dans la qualité du logement et on a une charte bas carbone qu'on se doit d'appliquer. LMH est évidemment signataire de cette charte. Et on a une longue tradition de qualité d'usage des logements à Lille qui est assez exigeante sur des sujets que vous citez, les logements traversants, les extérieurs, les hauteurs sous plafond, mais également les distributions des logements, une surface minimale des chambres, qui vont bien au-delà de ce qu'on peut avoir dans des logements classiques. C'est un sujet économique, mais qu'on embrasse avec beaucoup, beaucoup de volontarisme, parce que, comme le dit bien Lola, on est, nous, de toute façon, gestionnaires des bâtiments. Donc, toute erreur que l'on va produire en conception ou en construction, on le paye pendant 40 ans. Une coursive trop longue, une cuisine trop petite, une hauteur sous plafond trop basse, c'est des problèmes de gestion locative pendant des années derrière. Donc il est dans l'intérêt du bailleur de générer la meilleure appropriation du logement possible, et ça passe par des sujets de qualité.
Juste une remarque là-dessus, on ne l'a pas dit, mais quand même les modes de fabrication en fait, du logement est quand même structurante par rapport à la capacité d'un bailleur de porter la qualité, bien évidemment. Donc effectivement, en fait, nous avons en fait un modèle qui cible la maîtrise d'ouvrage directe, donc du coup des équipes en propre qui construisent et conçoivent. Pour autant, ça ne veut pas dire en fait que la VFA n'est pas en fait un modèle également en fait à développer, mais pour autant dans lequel la qualité elle est plus difficile en fait parce qu'on n'est pas en amont en fait dans la phase conception en fait du projet, bien évidemment.
Question Hélène.
Oui, je poursuis, je vous partage une autre question d'auditeur. Est-ce que vous menez une réflexion sur les espaces communs et partagés dans les bâtiments à destination de logements locatifs social, familial ?
Maxime ?
Oui, c'est une tarte à la crème pour nous, parce que c'est évidemment, d'abord, le logement social, on est là pour loger, mais on est là pour assurer une mission relative au vivre ensemble. Et les communs participent de la possibilité qu'on a à produire du vivre ensemble, mais deux règles. La première, c'est qu'un commun, ça se gère. Et donc, prévoir une partie commune plus importante, une coursive un peu plus longue, un espace commun, en espérant que la magie du vivre ensemble et d'une cage d'escalier parviendra à résoudre tous les sujets de voisinage, c'est un doux rêve. Et la seconde règle, c'est de bien faire en sorte que ces communs ne soient pas disproportionnés par rapport à la taille du bâtiment. J'ai vécu ça, il faut rester dans une logique intime, dans une logique appropriable par les gens qui participent à la vie de ces communs.
Alors, Alors, si on peut prendre une dernière question,
oui,
peut-être.
Oui, oui.
Est-ce que vous appuyez sur des filières locales pour aider à la structuration des filières bio, géosourcées
Non,
des territoires.
Ah, c'est une nécessité. C'est également grâce à la construction hors site qu'on arrive davantage à intégrer justement les filières locales. On a des programmes aujourd'hui qui se développent avec du béton de chanvre préfabriqué par ailleurs, en fait, ou alors projeté, ou alors sous d'autres formes, mais en tout cas qui sont issus des filières locales et qui par ailleurs sont, disons, en fait, défendus d'une manière importante par les élus et à juste titre, j'ai envie de dire. Il y a également en fait la paille, c'est une autre ressource en fait des territoires qu'on commence à développer. On a 2-3 programmes effectivement qui se développent. On en a un en Normandie avec une quarantaine de logements dans lesquels on a constitué disons en fait un ensemble de disons un collectif de maîtres d'ouvrage pour donner en fait une visibilité en fait à la filière. Il y a un besoin, il faut justement pouvoir poursuivre en fait justement le développement et structurer en fait justement l'intégration en fait de ces matériaux qui sont très performants et local et pourvoir qui pourvoit en fait de l'emploi local par ailleurs.
Et vous n'avez pas de difficulté à trouver la bonne compétence?
Écoutez, ça se structure et en tout cas, on remarque qu'il y a beaucoup, de plus en plus de jeunes qui, disons, se dirigent vers ces filières. Et en plus, grâce justement à la filière de l'industrialisation et de du hors-site, ça permet aussi en fait d'être, de développer en fait des emplois qui sont à l'abri, qui sont protégés et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas en fait le maçon comme on l'entendait auparavant, j'ai envie de dire. En tout cas, ça se développe et il y a beaucoup d'engagement en fait, de la jeunesse là-dessus.
Eh bien, écoutez, on va vous remercier toutes et tous d'être venus sur ce plateau. Merci Lola Davidson, directrice du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Luca De Franceschi, directeur de l'architecture et du développement durable d'Immobilière 3F. Et puis Maxime Bitter, directeur général de Lille Métropole Habitat.
Merci.
Un grand merci. Merci Hélène. Merci à vous également, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes toujours en direct de cette 84e édition du Forum HLM. On se retrouve très vite pour une prochaine émission, notamment à 15h pour un éclairage sur l'atelier des solutions, une démarche partenariale pour relancer l'offre de logement social dans le département du Gard. Voilà pour être tout à fait complet. Merci de votre fidélité et à très vite sur Radio Territoria.
Vivez le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.